Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Retour dans notre débat du jour sur un événement qui s'est tenu il y a quelques semaines, le jour même où le groupe État islamique reprenait Palmyre et pendant que le régime syrien et ses alliés finissaient d'écraser Alep, un colloque international sur le patrimoine syrien, les 10 et 11 décembre à Damas. Des archéologues étrangers, dont des Français, invités par le régime syrien, y ont participé pour discuter du futur des sites antiques syriens. Un colloque qui a provoqué l'indignation d'une partie du monde de l'archéologie. Alors l'archéologie peut-elle, doit-elle s'affranchir de la morale? Eh bien c'est notre thème du jour, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Annie Sartre-Foria, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure émérite de l'Université d'Artois, spécialiste de la Syrie antique. En face de vous, pour débattre, discuter, Yannick Lins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice du département des arts de l'islam du musée du Louvre. Alors je voudrais, mesdames, juste avant de commencer, vous lire un extrait du mail que nous a écrit l'une des archéologues qui est allée à Damas lors de ce fameux colloque, mi-décembre donc. Elle aurait aimé être avec nous aujourd'hui, mais son emploi du temps ne lui a pas permis. Voici donc ce que nous a écrit Béatrice André Salvini. L'archéologie ne peut pas évidemment s'affranchir de la morale et toutes les atrocités accomplies au nom de la guerre sont à condamner. D'un autre côté, la sauvegarde du patrimoine archéologique est apolitique, ainsi que le démontrent nos collègues syriens de la direction des antiquités et des musées. Ils viennent de différents horizons politiques, mais ils sont restés à leur poste pour pouvoir, dit-elle, lutter ensemble sur place pour défendre leur histoire commune, souvent au risque de leur vie, quel que soit leur vécu personnel et malgré le drame qu'ils subissent de plein fouet. Cela me semble hautement moral et mérite aussi d'être encouragé et soutenu. Les initiatives des communautés scientifiques syriennes et internationales qui sont à l'extérieur du pays, lorsqu'elles sont menées avec le même intérêt de la préservation et de la restauration d'un grand patrimoine culturel, sont également respectables. Une coopération pour ce but commun renforcerait leur efficacité. Voilà donc ce que nous a écrit Béatrice André Salvini. Alors je voudrais évidemment vous donner la parole, Annie Sartre-Foria, car vous avez été l'une de ces voix qui se sont élevées contre l'acceptation de l'invitation à Damas. Alors, est-ce que pour vous, l'archéologie est apolitique ou politique ?
Alors, si on revient sur le mot politique, et c'est vrai qu'un certain nombre de ses participants nous ont reproché d'avoir politisé le débat, je dirais que je l'assume complètement d'avoir politisé le débat, parce que effectivement, de quoi parle-t-on ? On parle d'un colloque qui a été organisé par le régime de Damas actuel, avec le concours donc de la Direction Générale des Antiquités et des Musées, qui est un organisme de l'État syrien actuel, avec le patronage de deux ministères, celui de la culture et du tourisme. Et en outre, les participants à ce colloque, outre le fait d'avoir assisté à ce colloque et d'y avoir participé, ont accepté de rencontrer le ministre du tourisme lors d'une audience. Nous avons les photos qui le prouvent. Et donc, on ne peut pas s'exonérer de penser que tout cela a été effectivement politique, parce que le régime syrien en a profité effectivement pour utiliser ce colloque à son profit, voilà, pour faire une sorte de propagande. Et c'est vrai que dans le cas où on se trouve d'une guerre civile en Syrie, il faut faire ses choix politiques, effectivement. Bon, alors moi, mon choix politique, il n'est pas du bord de celui que je viens de décrire. Et je trouve qu'en effet, ce colloque était quelque chose d'inopportun, surtout au moment où il s'est déroulé, puisque vous l'avez rappelé, il s'est déroulé les 10 et 11 décembre, au moment où Alep était absolument ravagée par les bombardements, où les cadavres traînaient dans les rues, où la population mourait de faim et de froid, où on les empêchait d'évacuer le quartier d'Alep Est, et au moment où effectivement le régime avait rendu à nouveau les clés pour la deuxième fois à Daesh, à Palmyre. Donc je trouve que c'était très inopportun. Je pense que nos collègues n'ont peut-être pas tous mesuré les conséquences que cela impliquait, et nous sommes un certain nombre, même beaucoup, à avoir critiqué cette initiative.
Oui, il y a une lettre qui a été publiée, voilà, avec le soutien de plusieurs associations d'archéologues,
voilà, notamment d'associations d'archéologues, d'historiens et de diverses personnes. Et honnêtement, je n'ai eu aucune remarque défendant la position des collègues qui sont allés à Damas parmi tous les gens qui ont été au courant de cette affaire.
Alors Yannick Lins, vous n'êtes pas directement parti au conflit, mais il y a, je crois, dans la délégation qui est partie à Damas, des gens qui collaborent avec le Louvre. Alors comment vous vous situez sur ce débat? Est-ce que vous considérez que l'archéologie est politique? Est-ce que vous compreniez qu'il y a débat?
Alors déjà, pour moi, les choses sont finalement très claires. Le Louvre n'a pas participé à ce colloque pour une raison très simple, c'est que moi, comme mes collègues, sommes fonctionnaires de l'État et que
il n'y a plus de relation diplomatique entre les deux États.
Et que donc l'équation, elle est simple pour ce qui est, en tout cas, de la pertinence ou non de cette participation. Après, est-ce que l'archéologie est politique? En tant que telle, non. Mais on voit bien, depuis le début, je dirais, du conflit, combien l'archéologie et le patrimoine en général sont instrumentalisés politiquement par tout le monde, et de plus en plus. Et autant on parle actuellement forcément de ces destructions, et je me permets de rappeler que l'exposition Sites éternels au Grand Palais jusqu'à lundi soir évoque ces histoires longues de la destruction du patrimoine et de sa conservation. Mais ce qui est tout à fait nouveau, à mon avis, dans ce que nous vivons actuellement, c'est l'instrumentalisation du patrimoine et de l'archéologie par divers partis politiques, que
et
ce
alors,
soit Daesh.
En tant que professionnel, comment est-ce qu'on y répond à cette instrumentalisation? Est-ce qu'on la refuse ou est-ce qu'on se dit il faut passer outre parce qu'il y a nécessité d'agir aussi?
Je dirais que ça se résout finalement assez simplement. Il faut effectivement être lucide et conscient des différentes situations d'instrumentalisation et bien sûr essayer de ne pas se faire instrumentaliser, mais cela ne nous évite pas, bien au contraire, d'être très actifs au Louvre, et nous menons diverses opérations avec des collègues syriens ou irakiens ou d'autres pays de lutte, je dirais, pour la préservation du patrimoine. Donc les choses, étrangement, sont, selon moi, très faciles à gérer. On peut être tout à fait proactif, je l'espère, de manière constructive pour la cause patrimoniale et pas pour une cause de tel ou tel parti, et donc aider nos collègues tout en ne se laissant pas, d'une manière ou d'une autre, instrumentaliser.
Alors, Annie Sartre-Foria, vous nous disiez tout à l'heure, vous nous décriviez un petit peu la manière dont s'est passé ce colloque, ces rencontres avec des officiels, avec cet organisme d'État syrien. Est-ce que ça veut dire que pour vous, finalement, y aller, ça aurait pu être possible s'il y avait eu une forme de désapprobation, un refus de se montrer avec certains officiels, ou aller aujourd'hui en Syrie, c'est de toute façon pas possible?
De toute façon, aller en Syrie à l'invitation de ceux qui avaient lancé l'invitation, c'est faire ses choix. Je trouve ce qu'il y a aussi d'assez choquant dans cette affaire, même de la part du gouvernement syrien qui a organisé ce colloque, c'est de laisser penser que les gens qui étaient venus allaient être complètement neutres du point de vue de leur opinion sur le patrimoine. Il ne faut quand même pas oublier que ce régime syrien qui instrumentalise de cette manière le patrimoine est quand même un des premiers responsables de la destruction de ce patrimoine. Les bombardements sur Alep au baril de TNT par des avions, c'est quand même la responsabilité du gouvernement syrien. Les bombardements de la citadelle de Bosra, ce sont les avions du régime qui l'ont détruit. Les pillages qui se sont produits sous les yeux de l'armée syrienne sans qu'elle intervienne, j'en dis pas plus sur les responsabilités. Donc, ce qui est quand même assez paradoxal et choquant, c'est que actuellement le régime veut se dédouaner d'un certain nombre de destructions dont il est en premier responsable, même s'il y a d'autres groupes qui effectivement ont aussi commis des dégâts, et que ces personnes soient allées à Damas avec en plus le label. Alors vous dites, le Louvre n'était pas partie prenante, mais il y a quand même des gens qui y sont allés en mettant qu'ils appartenaient au Louvre, qu'ils appartenaient au CNRS, qu'ils appartenaient à l'École normale supérieure.
Ça vous a dérangé?
Donc ça, c'est
ça
quand même un peu gênant.
En fait, pour être clair, ce sont des collègues à la retraite.
Qui sont émérites,
donc c'est sur ce mot d'émérita ou de conservateur honoraire que c'est créé l'ambiguïté. Mmh. Moi, ce sont des collègues que je connais très bien et que je respecte énormément et je ne doute pas qu'il n'y ait eu aucune envie d'instrumentalisation de leur part. Bon, après, on joue sur les mots, mais c'est se dire conservateur honoraire ne veut pas dire qu'on représente l'institution. Et ça, je pense que pour tout le monde, y compris pour les participantes, c'était clair.
Oui. Non, enfin, ce qui était quand même assez choquant, c'est que ce colloque a été organisé en même temps d'une manière un petit peu confidentielle, parce que nous l'avons su que lorsqu'il avait été fait. Oui. Bon, donc ça veut dire
nous
que
aussi.
Les gens qui ont été
donc il y a quand même eu une certaine
invités,
gêne
voilà.
pour ceux que, qui s'y sont rendus.
Oui, mais je
que
pense que les
dire.
Gens qui ont été invités l'ont été par ceux qui l'ont fait, en connaissant parfaitement quelles étaient leurs opinions. Moi, je n'ai pas été invitée. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement opposants et qui n'ont pas été invités et qui ne l'ont même pas su. Donc, si vous voulez, je crois que c'est un colloque qui a été fait un peu en interne, qui a été utilisé par la télévision, la radio, les photos en Syrie, etc., pour montrer qu'il y avait un soutien au régime. Mais c'est un colloque quand même qui pose problème par rapport à ceux qui y sont allés, parce que je crois quand même que, a posteriori, j'espère qu'ils se posent quand même quelques questions et qu'ils sont pas complètement sereins avec cette affaire, il y a un problème quand même de moralité.
Voilà, alors, Béatrice André-Salvini était manifestement assez sereine, et comme ils ne sont pas là pour en parler, je voudrais qu'on avance un petit peu, on va pas leur faire leur procès
sans qu'ils soient là, chacun jugera.
Voilà, mais Yannick Lis, moi, la question qui se pose, je trouve, finalement, c'est celle de « et donc, qu'est-ce qu'on fait ?» Aujourd'hui, il y a donc un patrimoine architectural qui est en train de artistique, qui est en train d'être détruit, ou en tout cas qui n'est pas sauvé, qui n'est pas préservé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va pas du tout en Syrie aujourd'hui ? Est-ce qu'on attend que ce soit la fin de la guerre ? Quel est votre avis ? Alors, je vous vois faire oui de la tête, mais Yannick Lis, vous, votre
alors,
avis ?
Alors, moi, je vais vous donner deux exemples très concrets des engagements actuels du département des arts de l'islam du Louvre. Pour ce qui est de la Syrie, de fait, nous n'allons pas sur le terrain, mais nous travaillons avec des Syriens et j'ai même eu la chance d'engager un Syrien spécialiste de l'époque islamique et nous avons entamé un programme dont l'acronyme est PAPSI, qui est un programme en fait de collecte d'archives scientifiques qui porte sur la Syrie et l'Irak d'époque islamique. Donc, pour être très concrète, cette action consiste à préparer l'après-guerre et à apporter notre contribution à ceux qui auront le pouvoir, je dirais, de diriger l'après-guerre patrimoniale dans ce pays.
Donc, et diagnostiquer, parce que c'est aussi le travail qui a été fait, je crois, par deux archéologues polonais, notamment, qui s'est occupé de Lyon, de Palmyre,
qui sont retournés pour
diagnostiquer, voir où on en était. Est-ce que ça, c'est faisable ou pas?
Oui, mais je dirais que toute action, il y a beaucoup de choses à faire pendant la guerre, le diagnostic fait partie de ces choses-là, ce qui est important parce que on l'a dit, il n'y a pas, et c'est normal parce que c'est compliqué, il n'y a pas de programme concerté, international d'action complémentaire. Donc ce qui, moi, m'a semblé très important, c'est de faire quelque chose qui était notre créneau de compétence et qui sera, comme je l'ai dit, une contribution aux autres contributions. Pour finir et donner un tout autre exemple d'intervention, puisque nous impliquons aussi en Irak et notamment dans la province du Kurdistan à Erbil, où j'étais encore il y a 3 semaines, et où nous montons avec l'université Salah al-Din d'Erbil une formation pour les archéologues et les architectes pour préparer là aussi
la
situation,
pas tellement agir sur le
voilà,
aujourd'hui.
La situation après après la libération de Mossoul.
Si elle existe.
Oui, non, mais je partage ce que vous dites parce que de fait, aller en Syrie en ce moment, ça n'a pas grand sens parce que la guerre n'est pas terminée. Nous l'avons bien vu avec la reprise de Palmyre par Daesh, dont on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire du site. Donc il y a effectivement pour l'instant, je crois, urgence à attendre, voir ce qui se passe. Peut-être si quelqu'un a une influence quelconque, faire savoir que ce patrimoine, il faut le protéger mieux qu'il ne l'a été, sécuriser les sites. Et de fait, nous sommes tous d'accord, archéologues, historiens, historiens d'art, etc. Et nous l'avons dit et écrit lors d'un colloque qui nous a réunis à Varsovie au mois d'avril, donc, et où nous avons vraiment affirmé que nous étions prêts à aider nos collègues syriens lorsque la guerre serait terminée, que nous mettons toutes nos archives...
Alors, justement, sur les collègues syriens, je voulais quand même vous faire réagir à ce qu'a déclaré, je crois que c'était dans une interview à Marianne, le directeur de la DGAM, la Direction Générale des Antiquités et des Musées dont vous parliez, qui dit « Je me suis sentie abandonnée par la France, tout ça pour des raisons politiques. » Alors, il fait référence à la fermeture de l'ambassade à Damas, la fin des subventions à l'école française. « L'archéologie syrienne est francophone, tout est écrit en français dans mon département. Pourquoi tout ce gâchis? Pourquoi, au sein de l'UNESCO, aucune personne française n'est venue à notre rencontre ?» La DGAM, donc cette direction, est une organisation scientifique et non politique. J'attendais un soutien moral et scientifique, pas des attaques.
Bon, quand il dit que c'est pas politique, bon, c'est faux. Mais si vous voulez, il a tort de dire que nous ne soutenons pas l'archéologie, que nous ne soutenons pas le patrimoine syrien. D'abord, nous continuons tous à travailler sur nos archives, sur nos documents. La preuve, mon mari et moi, nous avons deux ouvrages d'inscriptions grecques et latines de Syrie qui sont sortis hier, deux volumes de 790 inscriptions d'une région de Syrie. Donc, ça prouve que nous continuons à travailler, que nous diffusons ce patrimoine, que nous le valorisons par nos publications, que nous sommes tous d'accord pour aider nos collègues le jour où ils auront recouvré une forme de paix, de liberté, pour mettre tout à leur disposition, pour les aider. Mais je crois que pour l'instant, il est urgent d'attendre, parce que c'est très prématuré d'envisager quoi que ce soit dans la situation actuelle.
Alors, d'attendre, ou en tout cas de préparer l'avenir.
De former les gens.
Il est évident que ça n'est pas parce que nous n'allons pas à la rencontre de notre collègue que nous nous préparons pas à l'aider. Et ce que j'espère, c'est que lorsque nous passerons dans une phase de réflexion commune sur les restaurations, que effectivement à ce moment-là nous puissions être associés par l'expertise que nous forgeons jour après jour aux décisions qui vont être prises.
Et puis il faudra que les Syriens aussi fassent peut-être le choix des spécialistes, parce que pour l'instant, en ce qui concerne Palmyre, ils ont fait le choix des Russes.
Alors voilà, c'est ça aussi.
Qui n'ont jamais mis les pieds à Palmyre et n'y ont jamais rien fait.
Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ne pas y être, ce n'est pas laisser le terrain libre à d'autres archéologues russes qui ont peut-être une vision un petit peu plus politique des choses?
Je ne sais pas ce que les Russes réussiront à faire à Palmyre. D'abord, pour l'instant, ils ont fui comme des lapins à nouveau, donc ils n'y sont plus. Ils y ont quand même contribué à détruire le site en installant leur camp en plein sur la nécropole nord de Palmyre, avec une piste d'atterrissage d'hélicoptères bétonnée, avec des chenilles, des routes, des creusées, des tranchées, etc. Donc là, on peut quand même se poser la question de leur volonté de préserver le site, enfin, en tout cas pour ce qui concerne les militaires. Et les Russes n'ont jamais travaillé à Palmyre. Donc,
ce ne sont pas les bons experts, finalement.
Ils ne sont pas mauvais, forcément.
Moi, je pense qu'en fait, on a affaire, dans ces contextes très médiatisés, on a affaire à des prises de position très ponctuelles. Ce qui va se faire, je l'imagine, c'est que le jour où s'orchestrera une vraie réflexion sur les restaurations d'Alep et de Palmyre, j'ose imaginer que c'est l'UNESCO qui va quand même mener la barre. Et que la parole sera donnée aux experts internationaux et notamment français.
Oui, aux gens compétents.
Mais qu'on sortira de ce qui est pour l'instant des postures.
On va en rester là sur cette note d'espoir donc avec l'UNESCO. Merci beaucoup, mesdames, c'était passionnant. Merci donc à Yannick Lins, directrice du département des arts de l'islam du musée du Louvre, à Annie Sartre-Foria, historienne, professeure émérite de l'université d'Artois, spécialiste de la Syrie antique, vous l'avez compris. Merci également à Alexandre Serre, Florence Ponce et Vincent Biteau qui assuraient la réalisation de cette émission. Très bonne suite de programmes sur RFI. Nous, on se retrouvera lundi. Demain, c'est avec François Bernard que vous avez rendez-vous.